Bonjour, merci à Christian aussi pour cette première partie et j'en profite au nom de vous tous pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais il y en a peut-être d'autres dont j'ignore que c'est l'anniversaire aujourd'hui, alors si c'est le cas, bon anniversaire aussi à vous. Mon sujet ce matin sera le pasteur. Non pas Pierre-Yves, je ne veux pas parler de lui ou de tel ou tel pasteur en particulier, mais du ministère pastoral que Dieu donne aux églises. Et je vous invite, avant de commencer cette méditation, à lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, et je crois que sur la feuille qui vous a été distribuée, la feuille hebdomadaire, vous avez un petit plan. Nous verrons d'abord ce que le pasteur n'est pas, ensuite ce qu'il est, bien sûr très succinctement, il y aurait certainement beaucoup de choses à dire sur ce sujet, et puis en troisième lieu, notre attitude, quelle attitude avoir à l'égard de notre pasteur. Hébreux, chapitre 13, c'est le dernier chapitre de cette épître aux Hébreux. Il y a quelques recommandations très pratiques. Et au verset 7, nous lisons « Souvenez-vous de vos conducteurs », on peut traduire aussi « de vos dirigeants », qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Puis ensuite, au verset 17, obéissez à vos conducteurs ou à vos dirigeants et soyez-leur soumis. C'est plus facile de prêcher sur ce texte quand on n'est plus pasteur. Car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Puis encore, juste le début du verset 18, « Priez pour nous ». Le pasteur, cela veut dire « berger », c'est le même mot. Et dans l'Ancien Testament, en particulier dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, mais aussi dans le livre de Jérémie, Dieu s'en prend au pasteur de son peuple, pasteur qui ne mettent pas en pratique ce que le Seigneur leur demande d'être pour leur peuple, qui n'accomplissent pas leur mission, pasteur infidèle, pasteur qui ne pense qu'à eux, pasteur qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Et dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, Dieu dit, à travers la bouche de son serviteur, donc Ézéchiel, Ézéchiel 34, verset 23, « J'établirai sur eux, sur mon peuple, un seul berger, un seul pasteur, qui les fera paître. » Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je conclurai avec eux une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Ils habiteront en sécurité, etc. » Cette parole a été accomplie, on pourrait dire, presque mot pour mot, littéralement par Jésus qui est appelé le grand pasteur des brebis et qui a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 10, « Je suis le bon berger, je suis le bon pasteur. » Et il se différencie des mercenaires en disant, « Moi je donne ma vie pour mes brebis. » Et bien sûr, à côté de ce pasteur suprême, de ce bon pasteur, Dieu a donné à son Église des pasteurs. Alors, qu'est-ce que le pasteur n'est pas ? Deux choses, essentiellement, il y en aurait sans doute beaucoup d'autres. Premièrement, il n'est pas un prêtre. Nous sommes dans une culture catholique. Et le catholicisme fait du prêtre un homme, et pas une femme, un homme à part, un intermédiaire. Ce qu'est le prêtre dans l'Ancien Testament d'ailleurs, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a certaines fonctions, comment pourrais-je dire, certains rôles, certaines choses, que dans la religion catholique, le prêtre seul peut accomplir. Par exemple, tout à l'heure, Christian a parlé de ces éléments, le pain et le vin, comme étant un symbole. Pour le catholicisme, ce ne sont pas des symboles. Il y a une transformation, une transsubstantiation de ces éléments en corps et en sang du Christ. Et cela, seul le prêtre peut le faire. Lui seul a ce pouvoir de transformer ces éléments en corps du Christ. Alors, les catholiques savent bien, puisque c'est écrit en toutes lettres dans la première épître de Pierre, c'est écrit en toutes lettres aussi dans le livre de l'Apocalypse. Si vous prenez des notes, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4 et verset 9, Apocalypse, chapitre 1, verset 6, ces textes nous disent que tous les chrétiens sont des prêtres. Et dans nos Bibles de traduction protestante, c'est le mot « sacrificateur » qui est utilisé. Mais cela veut dire « prêtre », on peut traduire par « prêtre ». Nous sommes tous des prêtres. Alors on pourrait dire, chez nous, dans nos églises de type évangélique et même de type protestant, tous les pasteurs sont des évêques et tous les chrétiens sont des prêtres. Je vais revenir sur ces expressions. Plusieurs mots dans le Nouveau Testament nomment ce qu'est un pasteur. D'ailleurs, si mes souvenirs sont fidèles, je n'ai pas vérifié, une seule fois dans le Nouveau Testament, le mot pasteur est utilisé. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 11 et 12, où il est dit que Dieu donne à son Église des pasteurs et docteurs. Alors, le mot docteur est un peu ambigu, parce que dans notre culture française, un docteur, c'est un médecin. Alors, il n'est pas dit, Dieu donne, il peut le donner, des pasteurs et des médecins. Mais le mot docteur, c'est le docteur de l'Église, l'enseignant de l'Église, celui qui est qualifié pour enseigner. Pas forcément celui qui a un doctorat en théologie, mais qui a ce rôle de docteur, d'enseignant. Et on pourrait très bien, d'ailleurs je pense que certaines Bibles le font, remplacer ce mot docteur par le mot enseignant. Dieu a donné à son Église des pasteurs et des enseignants. Alors c'est la seule fois où le mot pasteur est utilisé, berger, voilà, cela veut dire un berger. Mais il y a d'autres mots qui qualifient ce ministère pastoral. Le mot d'ancien, voilà, qui ne veut pas dire quelqu'un qui est vieux, mais quelqu'un qui a une responsabilité que donne, comme chez les anciens, l'ancienneté ou l'expérience. Il est dit que l'ancien ne doit pas être jeune converti parce qu'il manque d'expérience. Et le mot ancien, bon, en grec c'est presbytéros, ça a donné en français le mot prêtre, le mot presbytère. Le presbytère, c'est là où habite le prêtre ou le pasteur. Voilà. Mais c'est une très mauvaise traduction, on ne peut pas traduire presbytéros par prêtre, parce qu'il y a un autre mot en grec qui veut dire prêtre. Mais presbytéros, ça se traduit d'ailleurs dans nos Bibles non pas par prêtre, mais par ancien. Et ce mot vient de l'hébreu. Un ancien, c'est un responsable, quelqu'un qui a la charge d'une communauté ou d'une responsabilité locale. Et puis il y a le mot épiscopos, qui a donné en français épiscopal, le palais épiscopal, d'ailleurs un palais, voilà, c'était un palais. Le palais épiscopal, c'est la résidence de l'évêque. Alors, ça a donné le mot évêque. Mais là aussi, le mot évêque n'est pas forcément quelqu'un qui chapeaute des prêtres ou des responsables dans toute une région ecclésiastique. Cela veut dire littéralement un surveillant. Non pas un pion dans un lycée, hein, mais quelqu'un, non pas quelqu'un qui surveille, mais quelqu'un qui veille sur. C'est le rôle d'accompagner, de veiller, d'être présent auprès de personnes qui ont besoin d'aide, de direction. Celui qui veille sur, cela veut dire aussi celui qui dirige. Donc nous sommes tous des prêtres, c'est-à-dire que nous pouvons tous aller entrer librement dans la présence de Dieu sans intermédiaire. Notre seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ, en tant qu'homme, qui a donné sa vie, qui nous donne le pardon de nos péchés. Et c'est en raison de cela que nous pouvons nous présenter devant Dieu, mais nous nous présentons aussi devant Jésus-Christ en tant que Dieu, en tant que personne de la Trinité. Un pasteur n'est donc pas un prêtre, ou il est prêtre un peu comme tout le monde, évidemment, hein, comme tous les chrétiens qui sont prêtres. Mais c'est vrai que si les pasteurs ne sont pas des prêtres, il y a un ministère pastoral qui doit être exercé dans l'Église. Nous y reviendrons. Et puis, deuxièmement, un pasteur n'est certainement pas un surhomme. Je n'ai pas trouvé d'expression féminine, surfemme, ça se dit pas, hein, une surfemme. Hein. Mais n'est pas un surhomme. Et nous avons des exemples dans la Bible de pasteurs, de dirigeants, de personnes à qui Dieu avait confié la responsabilité de son peuple, qui ont montré leurs limites, ou à qui leur a été montré leurs limites, et qui pouvaient s'épuiser dans une tâche qui était trop lourde pour eux. Je pense particulièrement à Moïse, qui avait la charge, on peut dire, pastorale du peuple de Dieu, en tant que libérateur, en tant que conducteur, en tant que dirigeant, mais aussi en tant que pasteur. Et nous avons vu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux qu'un des rôles, un des ministères du pasteur, c'est d'apporter la parole de Dieu. Qui mieux que Moïse a apporté la parole de Dieu à son peuple? Il avait, lui, un téléphone direct avec Dieu dans le tabernacle, hein, dans la chambre où il se mettait en contact avec Dieu, hein, et il transmettait la parole de Dieu à son peuple. Et à un moment donné de son pèlerinage, du pèlerinage du peuple d'Israël dans le désert, il reçoit la visite de son beau-père, Jéthro. Ce n'était pas quelqu'un qui était dans l'abondance, enfin, peut-être l'était-il, je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir. Et son beau-père vient le voir d'ailleurs avec la femme de Moïse et les deux fils de Moïse, dont on ne parle pas d'ailleurs, on parle uniquement de Jéthro, du beau-père. Et en substance, il lui dit, quand Moïse lui raconte un peu tout ce qui s'est passé, la libération d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, le don de la loi au mont Sinaï, c'est des choses vraiment extraordinaires. Jéthro était prêtre de Madian, hein, voilà, bon, dans le pays de Madian, là où Moïse d'ailleurs avait aussi vécu avant d'être appelé pour aller libérer son peuple. Et en substance, Jéthro lui dit, tu te fatigues trop. Ne te fatigue pas autant, il faut que tu saches déléguer. Tu ne sais pas déléguer, tu en fais trop, tes journées sont trop longues, tu t'épuises, tu ne pourras jamais continuer comme cela. Il faut absolument que tu trouves des personnes pour partager ta tâche. Et c'est ce que Moïse fait, il suit le conseil de Jéthro. Il ne se prenait peut-être pas pour un surhomme, mais tôt ou tard, il allait craquer. Et Jéthro était envoyé peut-être par Dieu au bon moment pour lui montrer qu'il fallait qu'il change un peu de façon de faire. Et puis je pense aussi à Timothée dans le Nouveau Testament. Timothée, même si ce n'est pas indiqué de cette façon-là, était le pasteur, jeune pasteur, mais avec une certaine expérience quand même, hein, il ne faut pas attendre 50 ans pour être pasteur, de l'église d'Éphèse. Et Paul lui écrit et lui donne ce conseil médical ou, comment dire, humain, cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Je suis un peu persuadé, je dis ça un peu par expérience, qu'il ne s'agissait pas simplement d'un petit problème physique. On peut avoir des maux d'estomac quand on doit prêcher, apporter la parole de Dieu. Quand on se trouve dans des situations parfois difficiles, inextricables. Et c'est une bonne chose, hein, nous ne sommes pas des surhommes. Et notre corps réagit à sa façon et parfois il réagit par des maux d'estomac, par des crampes d'estomac. On appelle ça peut-être aussi le tract, mais voilà. Donc je pense que Timothée faisait partie de ces personnes qui prenaient tellement à cœur son travail qu'il en avait des maux d'estomac. Et l'apôtre Paul, de façon très terre à terre, lui conseille de boire un peu de Beaujolais. Pas tout à fait. Le pasteur n'est pas un prêtre, parce que nous sommes tous prêtres. Le pasteur n'est pas un surhomme. Le pasteur a besoin aussi de connaître ses limites, et il a besoin aussi de déléguer. Ce qu'est le pasteur maintenant? Un berger. Quelqu'un qui s'occupe du troupeau, c'est peut-être pas très joli, mais c'est comme ça que c'est dit dans la Bible, du troupeau de Dieu. Dieu a un peuple, un troupeau, l'Église. Et il confie le soin apporté à ce troupeau à des pasteurs, à des bergers. Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, je reviens à cet épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 11 et 12. Le mot « pasteur » est lié au mot « docteur enseignant », des pasteurs et docteurs. Et c'est vrai qu'une des tâches importantes du pasteur, c'est d'apporter la parole de Dieu. Et en ce sens, je crois que le pasteur est un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui transmet la parole de Dieu à son peuple. Et c'est la raison pour laquelle il doit aussi être formé, il doit avoir une certaine expérience de la parole de Dieu. Et l'Épître aux Éphésiens, Paul dit dans cet Épître aux Éphésiens que Dieu a donné des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est une expression pour dire ceux qui ont été sanctifiés par le Seigneur, c'est les chrétiens dont les péchés ont été pardonnés, qui sont rendu saint par le sacrifice de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les saints du calendrier. Pasteur et enseignant. Et dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, dans les quatre premiers versets, Pierre s'adresse aux anciens, donc c'est un terme synonyme de pasteur, on peut dire que ancien, évêque, pasteur, dirigeants ou conducteurs sont tout à fait synonymes. Si vous avez besoin de vous en convaincre, relisez Actes chapitre 20 et vous verrez que Paul, qui se trouve dans une ville qui s'appelle Milet, envoie chercher les anciens de l'église d'Éphèse, qui est pas très loin, peut-être à, je ne sais pas, une journée de marche peut-être. Et ces anciens viennent. Et il y a ces différentes expressions qui sont utilisées pour ces responsables. Il y a le mot ancien, il y a le mot évêque, il y a le mot, alors pas pasteur, parce qu'il se trouve une seule fois dans l'Épître aux Éphésiens, mais il y a l'expression, le verbe paître ou faites paître, occupez-vous du troupeau de Dieu, et Paul donne ses dernières recommandations à ses responsables de l'église d'Éphèse. Et dans la première épître de Pierre au chapitre 5, dans les premiers versets, Pierre dit « Faites paître le troupeau de Dieu, non pas par contrainte, volontairement, selon Dieu ». Voilà, hein, donc cela montre aussi ici tout le côté spirituel, le côté prière et attachement au Seigneur que revêt ce ministère pastoral. Et puis à plusieurs reprises, Paul et Pierre disent que le pasteur doit être un modèle. Redoutable recommandation. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Éventuellement aussi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Mais le pasteur, ici, est considéré comme un modèle. Paul dit à Timothée, chapitre 4, verset 11 et verset 16, « Sois un modèle. » Sois un modèle. Et puis 1 Pierre 5, verset 3, en devenant un modèle du troupeau. C'est difficile d'être un modèle quand on est humain, quand on est pécheur, quand on est faible, parce que tout le monde n'est pas toujours fort. Hein, il y a des moments peut-être plus difficiles que d'autres. Mais c'est là aussi, je crois, ce que Dieu a voulu, et c'est peut-être une des exigences de ce ministère pastoral, d'être un modèle. L'apôtre Paul, qui était aussi pasteur, mais aussi évangéliste, aussi prophète, apôtre, beaucoup de choses à la fois, j'ai même écrit quelque part qu'il était aumônier de prison. Vous voyez, donc l'apôtre Paul a aussi été aumônier, en tout cas auprès d'Onésime. Dans l'épître à Philémon, on le voit bien. Était pasteur nuit et jour. Constamment, il avait le souci de l'église ou des églises, pas seulement celles qu'il avait fondées. L'épître de Rome le montre, il n'a pas fondé l'église de Rome, mais il avait le souci de ses frères et ses sœurs en Jésus-Christ. Et il priait, et il écrivait, et il enseignait, et il envoyait des émissaires pour avoir des nouvelles, pour que ces églises soient préservées de ce qu'il appelle des loups dévastateurs qui, dit-il dans Acte 20, viendront après lui et qui essaieront de détruire le troupeau. Hein, l'image ici est une image pastorale de berger dans sa campagne qui surveille, qui veille nuit et jour son troupeau pour que les loups, les bêtes féroces, ne viennent pas dévorer et que les bêtes aient suffisamment de nourriture. Paul, pasteur à plein temps, nuit et jour. Paul n'a pas été toujours pasteur évangéliste à plein temps. Il y a des périodes de sa vie où il a travaillé de ses mains. Il était faiseur de tentes, il s'occupait de fabriquer des tentes, probablement en cuir, là où il y avait des tanneries. C'est un métier assez difficile. Et si je pense que un pasteur à plein temps dans une église n'est pas indispensable, je crois qu'un pasteur à plein temps dans une église est une bénédiction et est aussi nécessaire. Alors c'est vrai, je connais des églises qui se débrouillent très bien sans pasteur à plein temps, pasteur salarié. Certains le font avec un missionnaire qui est salarié par des églises de l'étranger. Mais certains, peut-être aussi par faute de moyens, ont des pasteurs qui ont aussi une profession différente que celle de pasteur. Il n'y a pas de règle dans l'Écriture. Mais je crois qu'un pasteur à plein temps qui peut se consacrer entièrement au ministère pastoral est plus disponible que quelqu'un qui travaille, et souvent les responsables d'église, les pasteurs, hein, nous avons dans notre église un collège pastoral, sont pris par leur profession. C'est une bénédiction parce que cela permet de passer davantage de temps dans la prière, dans l'étude, dans la réflexion, dans la vision qu'il faut donner à l'église, et surtout aussi être disponible pour que ceux qui veulent un entretien, par exemple, ou ceux qui ont besoin d'être visités, que cela puisse être fait en temps voulu. Le travail, le ministère de pasteur n'est certainement pas facile, et je vous dis ce qu'a dit le père de John Wesley. John Wesley, c'est le père du méthodisme. Alors, il y a des églises méthodistes à travers le monde. Ce sont des églises protestantes de type évangélique qui se sont beaucoup développées dans le monde anglo-saxon, en Angleterre et en Amérique au XIXe siècle. John Wesley en est à la fois le fondateur, la cheville ouvrière. C'était un évangéliste remarquable, un pasteur remarquable. Il voyageait à cheval, et c'est sur son cheval qu'il écrivait ses sermons, ses lettres aux églises, etc. Il a eu un ministère extrêmement fécond. Il a d'abord été pasteur de l'église anglicane, église officielle en Angleterre. Et ensuite, il a été mis à la porte de son église anglicane parce qu'il était trop, entre guillemets, évangélique ou évangéliste. Et le mot de méthodisme vient du fait qu'il a inventé comme une méthode. Pour lui, il fallait avoir une méthode pour lire la Bible, pour prier, pour ne pas négliger, en tout cas pour les pasteurs, voilà certaines règles qui permettaient de passer du temps avec Dieu. Et quand il est devenu pasteur de l'église anglicane, son père a dit ceci, lorsque son fils donc a été consacré pasteur dans l'église anglicane: ne deviens pas pasteur pour gagner ta croûte. Être pasteur, c'est le pire des métiers, mais la plus belle des vocations. Je crois qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Et lorsqu'il a été éjecté de son église anglicane, il a dit: peu m'importe, le monde est ma paroisse. Et c'est vrai qu'il a voyagé à travers le monde pour avoir un ministère donc d'évangéliste extrêmement fécond. Alors je reviens maintenant au texte que j'ai lu au départ, Hébreux chapitre 13, verset 17. Notre attitude à l'égard de notre pasteur ou du ministère pastoral ou des pasteurs de notre église, puisque nous avons plusieurs pasteurs, nous avons un collège pastoral, les anciens, c'est synonyme de pasteur, mais nous avons aussi un pasteur à plein temps. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'on ne connaît pas, dit: obéissez. Obéissez à vos dirigeants, à vos conducteurs. Le mot ici, obéissez, veut dire non pas soyez obéissants comme un enfant doit être obéissant à vos parents. D'ailleurs, j'ai vérifié. Quand dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit aux enfants: obéissez à vos parents, et il utilise un verbe qui n'est pas le même que celui-ci. Obéissez à vos conducteurs n'est pas du même ordre que l'obéissance qu'un enfant doit à ses parents, par exemple. Voilà. Le mot veut dire ici se laisser persuader. Laissez-vous persuader par vos conducteurs. C'est-à-dire, voilà, bon, imaginons, le pasteur met en place certains projets dans l'église. Bon, on peut dire: oh, mais ça c'est nul, ça c'est complètement idiot, enfin, ça ne marchera jamais, etc. C'est la meilleure façon de casser un pasteur, c'est de ne pas le suivre. Laissez-vous persuader. Par exemple, on va faire une exposition sur les 400 ans des églises baptistes dans le monde. un projet qui permet de faire connaître un peu l'Église à travers notre secteur ici de Villefranche, à travers la ville, etc. 400 ans de baptisme, mais on s'en fiche complètement. Mais ça intéresse qui? Ça intéresse personne. Et le pasteur peut se retrouver tout seul, avec deux, trois personnes peut-être convaincues, mais sans que l'Église suive. Laissez-vous persuader, voilà. Hein, cela veut dire cela, obéissez, soyez derrière votre pasteur pour qu'il ne soit pas coupé du troupeau, mais qu'il fasse corps avec le troupeau. Et puis, l'auteur insiste en disant, soyez-leur soumis. Alors là aussi, ce verbe, en fait, on appelle ça un apax pour les savants ici, hein, un apax. C'est-à-dire qu'un apax, c'est quelque chose, un verbe qui n'arrive qu'une seule fois. Il n'est utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc le verbe ici, soyez-leur soumis, hein, soyez soumis, n'est utilisé qu'une seule fois. Donc on ne peut pas le comparer à d'autres exemples dans la Bible. D'ailleurs, le mot apax, ça veut dire une seule fois. Voilà, c'est donc pour ça qu'on appelle cela un apax. Et ça veut plutôt dire céder, sachez céder, donc ne résistez pas, hein, ou encore soyez docile. Et le contraire serait récalcitrant. Voilà, hein. Donc, obéissez, laissez-vous persuader par le pasteur ou les pasteurs, soyez-leur soumis, c'est-à-dire soyez dociles, ne soyez pas toujours en train de râler ou en train d'être récalcitrant, car, dit l'auteur, ils veillent, donc vos dirigeants, hein, ils veillent sur vos âmes, sur vos vies, sur vous-même, voilà, hein. Et ici, le verbe veiller sur, n'est pas le même que celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour parler de l'évêque, du surveillant, de celui qui veille sur. Mais ici, il s'agit de veille, les veilles de la nuit. Hein, quand vous avez des insomnies, que vous ne dormez pas, et que, donc que vous veillez, eh bien, c'est ce verbe-là que l'auteur utilise ici, hein. Et je crois que le mot « insomnie » est peut-être bien choisi en français. Je pense qu'une responsabilité, mais pas seulement dans le domaine pastoral, dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial, peut entraîner des insomnies. Et je crois que quand la charge est lourde, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, pas seulement, quand il y a des cas difficiles, il peut y avoir aussi des insomnies. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, énumère ces insomnies dans le cadre de son ministère. Par exemple, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 5. « Car, dit encore l'auteur aux Hébreux, ils devront, donc les dirigeants, les pasteurs, rendre compte. » Rendre compte. Rendre compte à qui ? Rendre compte à Dieu. Bien sûr, rendre compte à Dieu de leur ministère, de leur travail, redoutable responsabilité. Et puis au verset 18, priez pour nous. Je pense qu'il est important de prier pour le pasteur, pour les dirigeants de notre Église, d'une part pour que, eh bien, le Seigneur les renouvelle, le Seigneur les fortifie, leur montre ce qu'il attend d'eux, leur révèle aussi sa pensée. Mais trop souvent, je crois aussi, dans nos églises, nous associons le pasteur à sa famille. Nous avons des pasteurs mariés, avec charge d'enfants. On pourrait très bien aussi avoir des pasteurs célibataires, hein. Ce n'est pas, je pense, pas incompatible. Mais c'est vrai que l'apôtre Paul, dans la recommandation qu'il donne à Timothée, lorsqu'il s'agit de choisir des anciens, des responsables, dit qu'il faut choisir parmi ceux qui ont un bon témoignage au sein de leur famille ou qui élèvent bien leur famille, parce qu'il dit que c'est un critère. Voilà, si on élève bien sa maison, si on se comporte bien dans sa maison en tant que chef de famille, eh bien, on le fera aussi de la même façon dans l'Église. Le pasteur comme modèle. Mais est-ce que sa famille doit aussi être un modèle? Est-ce que son épouse doit être aussi un modèle? Certainement en tant que chrétienne. Et les enfants, sans doute aussi, en tant qu'enfants d'une famille qui honore le Seigneur et qui veut suivre le Seigneur. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel âge? Parce qu'il arrive un âge où les enfants volent de leurs propres ailes, deviennent indépendants. C'est une question difficile et trop souvent, je crois que certains pasteurs se sont découragés en raison de leur famille. Nous connaissons dans notre association baptiste un pasteur qui a arrêté le ministère pastoral tout simplement parce que ses enfants ne suivaient pas le Seigneur. Mais quelques années après, dans une autre ville, il a repris une fonction d'ancien et donc de pasteur. Il nous appartient, je crois, de prier pour nos pasteurs ou pour notre pasteur et aussi donc de l'encourager en lui étant soumis, c'est-à-dire en étant docile. Et puis un dernier point dans notre attitude. Alors vous pouvez lire avec moi dans 1 Timothée, chapitre 5, versets 17 à 18. Que les anciens, donc les pasteurs, qui président bien, c'est-à-dire qui exercent bien leur ministère, soient jugés dignes d'un double honneur. Qu'est-ce qu'on a à faire d'un double honneur? Deux médailles au lieu d'une? Franchement, on n'en a rien à faire. Et je préfère une autre traduction, celle de la Bible du Semeur. Si vous l'avez sous les yeux, par exemple, vous pouvez constater que la traduction est différente. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais la traduction du Semeur dit ceci, que les responsables qui président bien ou qui exercent bien leur ministère reçoivent un double salaire. Un double salaire. Alors oui, un double salaire c'est bien, mais à partir de quel salaire de base ? S'il est très bas, ça ne va pas chercher bien loin. Mais quand même, l'idée est là. L'idée est là. L'idée d'honorer, ce n'est pas tout à fait faux. D'ailleurs, certains reçoivent des honoraires, non pas de salaire fixe. Et le mot honoraire est apparenté à honneur. C'est la même racine. Voilà. D'où cette traduction différente qui, je crois, est plus juste et plus vraie. Parce que Paul ajoute, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Et il continue en disant, car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain, l'ouvrier mérite son salaire. Alors là, ici, le mot a été traduit par salaire et non pas par honneur. Il ne traduit pas là, second, l'ouvrier mérite son honneur. Oui, il le mérite sans doute aussi, bien sûr. Mais il mérite surtout un salaire convenable pour son travail. Alors c'est vrai que dans nos églises, où nous rémunérons par nos propres deniers, par nos propres dons, le salaire pastoral, avec charges sociales, etc., ce n'est pas toujours facile de donner un double salaire. Mais je crois qu'on pourrait traduire par, pour réconcilier peut-être les deux traductions, que les pasteurs qui président bien soit jugé digne d'un salaire honorable, pour que cela puisse permettre au pasteur d'accomplir tranquillement son ministère sans chercher une autre source de rémunération et pour qu'il puisse aussi se consacrer entièrement à leur ministère pastoral. Pour qu'il puisse le faire avec joie, et non pas en gémissant. Voilà, je crois, une bonne recommandation. Alors, je m'arrêterai là. J'ai dépassé un peu le temps que je m'étais imparti, un peu plus d'une demi-heure. Mais je crois qu'il est important de remercier Dieu pour le pasteur ou les pasteurs que Dieu nous donne, les responsables. Il est important de prier pour eux, il est important de soutenir, d'encourager, d'aider pour que ces différents ministères puissent être accomplis avec joie. Merci Seigneur pour le pasteur, les pasteurs que tu nous donnes. Je vous invite à terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, combien nous te louons pour les dons que tu donnes à notre Église. Tout à l'heure, nous avons évoqué les dons musicaux que tu donnes aux uns ou aux autres. Nous te remercions aussi pour les frères et sœurs qui servent, qui aident, qui s'entraident. Et merci Seigneur aussi pour les ministères pastoraux exercés dans notre Église, ministères d'enseignement, ministères aussi de veille, de soutien, d'aide spirituelle. Nous te louons, Seigneur, parce que tout cela, c'est toi qui l'accordes, mais viens encore renouveler chacun de ceux à qui tu as confié un don pour qu'il soit exercé en toi, pour toi et pour ta gloire. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes et veuille bénir encore Pierre-Yves et relève-le aussi de sa maladie. Au nom de Jésus, amen.